This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Iran et au Japon, plus la campagne française vue d'ailleurs. C'est le menu du journal de l'International de Michael Thébault. Musique, Mathieu Culeron sur le retour du groupe écossais Jesus and Mary Chain. 18h55, Anthony Bélanger pour un portrait de Martin McGuinness, disparu aujourd'hui, ancien vice-premier ministre d'Irlande du Nord. Tout de suite, la lutte antiterroriste en Europe.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Le 22 mars 2016, Bruxelles était, après Paris, la cible d'une série d'attentats terroristes ayant fait 32 morts. Il y a un an, donc, surgissait après ce moment de violence un certain nombre de débats sur la sécurité en Europe, les frontières passoires, l'impossible mise en commun du renseignement au sein de l'Union, l'introuvable FBI européen, le suivi des personnes notoirement radicalisées, et j'en passe. Un an plus tard, où en est la lutte antiterroriste en Europe? On en parle ce soir avec Gilles de Kerckhove et Béatrice Delvaux. Gilles de Kerckhove, coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, en duplex depuis Bruxelles. Béatrice Delvaux, journaliste et éditorialiste en chef au journal Le Soir, également en duplex depuis Bruxelles. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et bonsoir. Première question pour vous, Béatrice Delvaux. Les attentats en France ont substantiellement modifié la vie quotidienne, notre rapport à la sécurité, au risque, à l'hypothèse aussi de la mort violente. Est-ce le cas également en Belgique?
Bah oui et non, en fait, parce que je me faisais la réflexion en venant jusqu'ici. Évidemment, on croise toujours ces militaires. Hein, on est beaucoup plus contrôlés. Il y a des militaires en rue, il reste des militaires dans les shopping centers. Je pense que c'est la partie la plus visible de la sécurité qui demeure, ou du renforcement de la sécurité. Il y a des écoles dans lesquelles on a renforcé aussi les contrôles, des écoles dans lesquelles on ne peut plus entrer aussi facilement qu'on le faisait avant. Donc je pense que sur une série d'éléments, il y a des rappels ponctuels du fait que le danger existe, qu'il... Et finalement, je crois que ces militaires, on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'ils servent encore à quelque chose, jusqu'à ce qu'il y ait, par exemple, ce qui s'est passé devant le Louvre. Et là, on se dit, bah, quand même, voilà, ça peut servir. Pour le reste, je pense que malgré tout, de façon peut-être pas intime, mais en tout cas au jour le jour, la vie a repris globalement assez semblable. Mmh. Et on aurait peut-être même l'impression qu'en fait, elle est comme avant. On sait qu'elle n'est pas comme avant, mais le fait qu'il n'y ait, entre guillemets, on peut toucher du bois, qu'il n'y ait plus d'attentats en Belgique depuis le 22 mars, a redonné un sentiment de vie normale après une léthargie qui a duré quand même un certain nombre de semaines.
Béatrice Delvaux, ici en France, et je vous demande toujours de comparer avec la situation en Belgique, on a pu le voir ce week-end encore avec l'attentat à l'aéroport d'Orly. Il y a immédiatement une communication très transparente de la part des pouvoirs publics et de la justice avec les fameux points presse de François Molins. Est-ce qu'il y a la même transparence chez vous en Belgique ?
Je sais qu'au début, on a un petit peu pleuré, on vous enviait un peu François Molins, je crois, au départ. Et puis alors, il y a quand même une communication. Le Premier ministre Charles Michel s'est assuré d'une communication vraiment très immédiate. Il y a eu quand même une forte efficacité sur l'aspect communication. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a quelque chose un peu bizarre. C'est qu'au même moment où on gère toujours les possibilités terroristes, il y a une commission d'enquête qui a été lancée et qui se déroule en parallèle, finalement. Donc on a une espèce de débriefing de l'enquête, des services de renseignement, etc., de ce qui s'est passé le 22 mars, en parallèle au fait que ça continue à exister et à être un élément d'actualité. Donc ça, peut-être que ça induit un petit peu parfois de brouillage, mais même à ça, je pense que les Belges se sont faits au fait de se dire, bon, bah, cette commission d'enquête, elle fait son travail, on verra bien ce qu'elle donne. Objectivement, sur le plan de la communication, il y a eu aussi, un peu après les attentats, des interviews assez longues des différents responsables des services judiciaires ou de renseignement. Et donc ça, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu de plainte. Et surtout, je pense que le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Intérieur Yann Yam Bonne, l'un est libéral, l'autre est nationaliste flamand, se sont fait vraiment un vrai devoir et une vraie volonté de se montrer extrêmement efficace sur un sujet qui à la fois le demandait, mais aussi parce que dans leur sphère, je pense, de compétences, c'était quelque chose sur lequel ils voulaient montrer qu'ils faisaient vraiment la différence et qu'ils étaient à leur place. La sécurité, c'était vraiment un de leurs éléments. Ils n'avaient pas tablé dessus, entre guillemets, au départ de leur gouvernement, mais c'est un élément sur lequel ils ne peuvent pas faillir.
Est-ce qu'on assiste à un examen de conscience de la part des services de sécurité. On le voit en France, il y a 5 ans, c'était les attentats de Toulouse, de Mohamed Merah. 5 ans après, on continue encore à découvrir un certain nombre d'éléments. Et pour les attentats plus récents en France, on regarde aussi de très près ce qui a pu dysfonctionner. Est-ce le cas également en Belgique ?
À travers cette commission d'enquête qui est toujours en cours, hein, donc il y a toujours des différents, en fait, une différence de point de vue entre les services de renseignement et le ministre de l'Intérieur. Par exemple, il y a une controverse qui demeure entre le ministre de l'Intérieur qui estime qu'un représentant belge en Turquie aurait dû mieux faire son travail parce qu'il était en vacances et qu'il n'a peut-être pas consulté ses mails comme il le faudrait. Ce représentant est venu témoigner devant la commission d'enquête et s'est défendu, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques l'ont beaucoup défendu. Donc ça reste une polémique qui n'est pas tranchée. La seule petite conclusion à laquelle on est arrivé jusqu'à présent, et qui est un petit peu parfois le drame belge entre guillemets dans beaucoup de choses qui sont passées dans notre pays, c'est de se dire que les services auraient pu peut-être mieux communiquer entre eux. Voilà, c'est ce qui est pour le moment sur table, mais je vous dis avec des points d'ombre qui restent et qui ne sont pas tranchés. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez qu'après les attentats, il y avait eu des remises de démission de 2 ministres, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Ils sont toujours en place et ils ne sont pas mis en cause à ce stade par la commission d'enquête.
Une dernière question avant de me tourner vers Gilles de Kerckhove, qu'en est-il de Molenbeek, qui, autant qu'un quartier de Bruxelles, autant qu'une commune, était devenu un symbole, voire le synonyme de quartier entièrement radicalisé et en marge de la loi? Les habitants de Molenbeek avaient eu du mal avec cette description-là. Qu'en est-il aujourd'hui, à la fois concrètement et dans le débat public belge?
Bon, écoutez, je le traverse tous les jours pour venir à mon travail, donc ce n'est pas une zone qui est interdite de circulation. Je pense que c'est une zone qui pense ses plaies, mais qui continue à s'interroger sur elle-même. Donc d'un côté, on a eu par exemple samedi dernier ce qu'ils ont appelé un G100, c'est-à-dire des citoyens de Molenbeek qui avaient été tirés au sort et qui étaient là avec la bourgmestre et différents intervenants publics pour dialoguer sur eux-mêmes, sur la radicalisation, etc. Donc il y a une volonté de faire vivre l'espace public. Les femmes, les associations de femmes à Molenbeek sont extrêmement actives. Il va y avoir beaucoup d'activités demain venues de la population. En parallèle, il y a la personne qui a été chargée un peu de gérer la radicalisation d'un civil, hein, c'est pas du tout quelqu'un d'autorité, c'est une autorité publique, mais c'est un jeune homme qui a été chargé, un officier de gestion de la radicalisation, qui mettait quand même en garde récemment, non pas pour dire qu'il y avait plein de jeunes qui étaient de nouveau prêts à aller se battre en Syrie. On sait par ailleurs que c'est plus compliqué, moins évident sans doute, de se dire que la Syrie est la destination. Mais il dit qu'il y a une espèce de radicalisation souterraine qui se fait, c'est-à-dire plutôt beaucoup de jeunes qui se sentent quand même toujours un peu perdus, qui ont un problème d'identification et d'identité et qui sont séduits par les théories du complotisme et des jeunes qu'on arrive même nous, enfin qui se sentent rejetés par un espèce de microcosme élitiste comme ça qui ne les touche pas. Et ça reste pour nous un vrai problème. Et je pense que là, on n'a pas encore appliquer les mesures qu'il fallait faire pour sortir ces jeunes de leur isolement et de leur tentation de sortir des radars, en fait. Mais pas pour aller se battre, hein, je le dis bien.
Béatrice Delvaux, avec nous en duplex depuis Bruxelles. À vos côtés, Gilles de Kerckhove, le coordinateur donc, de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Je vais y aller franchement, monsieur le coordinateur. Est-ce que l'Europe est toujours une passoire ?
Absolument pas. Je pense que depuis au moins 2 ans, on a mis les feux pour essayer de rendre les contrôles aux frontières extérieures beaucoup plus efficaces, beaucoup plus effectifs. Et on a pris un certain nombre de mesures. On a commencé par changer le code Schengen pour contrôler systématiquement tous les Européens à l'entrée et à la sortie, ce qui ne se faisait pas jusqu'ici, et en partie pour couvrir les combattants étrangers qui étaient en fait des Européens qui partaient en Syrie et qui revenaient de Syrie. Premier point. Deuxième point, on a en plus créé, le mot est horrible, des hotspots, mais des lieux où toutes les agences travaillent ensemble. Europol, notre agence de coopération policière, Eurojust, notre agence de coopération judiciaire, Frontex, c'est EASO, qui est une agence qui s'occupe de l'asile, et des officiers de police des États membres détachés dans ces centres.
Donc l'Europe n'est plus une passoire un an après Bruxelles, où l'Europe
Absolument
était
pas.
Une passoire.
Absolument pas. Je ne dis pas qu'elle était une passoire auparavant.
Mais c'est moi qui le dis, et puis on a pu le constater.
Il fallait resserrer le contrôle aux frontières extérieures, et nous sommes en train de le faire, avec aussi une bien meilleure alimentation des différents fichiers, maintenant, et en termes d'alimentation et en termes de consultation, aux frontières extérieures, les choses ont particulièrement progressé.
Et où en est le partage du renseignement? On sait que ça fait partie de la souveraineté la plus intime des États et qu'il est donc très difficile de mettre les renseignements en commun. On avait vu justement au cours des attentats de Bruxelles, mais aussi des attentats parisiens, que l'absence de partage vraiment efficace du renseignement pouvait ouvrir les mailles du filet. Est-ce qu'on a progressé depuis Bruxelles?
On a progressé. Alors, je voulais d'abord dire que ce n'est pas simplement une question de collecte et de partage, c'est aussi une question d'analyse. Mmh. Dans beaucoup de cas, l'information était disponible, mais n'a pas toujours été bien analysée. Parce qu'il faut faire une sorte de priorité dans des cas multiples, et donc ce n'est pas toujours facile de hiérarchiser. Mais en termes de collecte et de partage, dans le domaine policier, il y a des progrès spectaculaires. À Europol, on a créé un centre d'excellence où on cherche à croiser les fichiers de la criminalité et du terrorisme, parce qu'on a vu que dans la plupart des cas, ceux qui ont perpétré des attentats avaient un passé criminel, donc il est très important de rapprocher les deux. Et du côté du renseignement, puis c'est un peu ça votre question, le groupe antiterroriste, qui est le club des services de renseignement, a structuré beaucoup plus sa coopération. Ils ont créé une plateforme humaine. Donc il y en a des experts de tous les 20, des 28, plus la Suisse et la Norvège, travaillent ensemble aux Pays-Bas, et une plateforme informatique. La question qui reste maintenant à développer, c'est comment assurer plus de relations entre la plateforme policière qui est à Europol et la plateforme du renseignement qui est elle aussi aux Pays-Bas. Et ça, ça se fait progressivement. Il faut dire que les traités actuels excluent le renseignement des compétences de l'Union. Mmh. Et donc, ce n'est pas quelque chose de facile à Bruxelles, parce que c'est une décision des États, et singulièrement des grands États.
Donc le FBI à l'européenne, pour reprendre cette image, n'est pas pour demain.
On s'y dirige, mais étape par étape. Et donc, je dirais qu'Europol est bien mieux alimenté qu'il ne l'était auparavant. Le SIS, qui est la grande base de données policière en Europe, est de plus en plus alimenté par les services de renseignement. Donc le SIS l'est, Europol l'est progressivement, mais on n'a pas encore, comme aux États-Unis après le 11 septembre, une agence, le FBI, qui a à la fois un département policier, law enforcement, et un département renseignement.
Pour quelles raisons? Vous venez de l'expliquer, mais je vous repose la question parce que, effectivement, après le 11 septembre, les Américains avaient pris le problème à bras-le-corps. Après de si nombreux attentats en Europe, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une accélération pour la création d'un outil de ce type?
Je dirais, la réponse facile, ce serait de vous dire que juridiquement, ce n'est pas prévu dans les traités. Nous n'avons pas de compétences en matière de renseignement, mais ce ne serait pas une réponse très convaincante. Enfin, juridiquement, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui, il faudrait réviser les traités. Maintenant, pratiquement, les États partagent au plan national. Et donc, vous avez depuis le 11 septembre de grands progrès. C'est-à-dire que la DGSI, qui a d'ailleurs une double casquette, elle est à la fois service de renseignement et service de police, mais partage avec la police et la gendarmerie. Donc en France, au sein de l'UCLAT, vous avez un partage que j'imagine être complet. En Allemagne, au Royaume-Uni, vous savez, au Royaume-Uni, les agents de Scotland Yard travaillent très étroitement avec le MI5. Donc au plan national, ces choses se partagent complètement. Et donc les services de renseignement disent, mais c'est au fond à nos collègues policiers à alimenter Europol avec tout ce qui peut être révélé. Alors, il y a des raisons techniques, il y a parfois de moins bonnes raisons, mais les bonnes raisons, c'est que c'est un métier particulier, le domaine du renseignement, vous devez protéger vos sources, vos méthodes de collecte de l'information, souvent sensibles, et donc là, il y a un peu une prudence en se disant que plus on multilatéralise, plus on augmente les destinataires, plus on fait courir des risques à la source et à la révélation des méthodes.
Oui, une dernière question, Gilles de Kerckhove, je ne vous apprends pas que la France est en campagne électorale. Il y a eu, dans le premier temps de la campagne, portée par les Verts, notamment, l'idée d'un parquet antiterroriste européen. Est-ce que ça, il va falloir attendre la nuit des temps? Est-ce une bonne idée? Et comment y parvenir?
Alors, là aussi, je suis malheureusement amené à faire la même remarque. En l'état actuel des traités, il faudrait l'unanimité. On est en train de mettre en place un parquet pour la protection des intérêts financiers de la communauté, et ça, ça va se faire. C'est un grand progrès. C'est d'ailleurs, je dirais, la seule formule fédérale en l'état actuel de l'Europe de la sécurité, mais c'est pour la protection des intérêts financiers. En matière de terrorisme, il faudrait l'unanimité, et il n'y a certainement pas d'unanimité. C'est déjà très difficile de le faire pour la protection des intérêts financiers, ce qui est totalement commun, puisqu'il s'agit de protéger le budget communautaire en recettes et en dépenses. Serait-ce une bonne idée? Je dirais, donnons d'abord à Eurojust sa chance, et veillons à l'utiliser au maximum. Je dirais que je ne pense pas que c'est la priorité. Si je devais moi-même exprimer un souhait, c'est peut-être plus d'inciter les services de renseignement à se rapprocher d'Europol avant même de concevoir un parquet européen. Parce qu'alors, ça, je ne suis pas convaincu de l'urgence de cette proposition-là.
Eh bien, c'est dit. Merci Gilles de Kerckhove, coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, en duplex depuis Bruxelles, avec à vos côtés Béatrice Delvaux, que je remercie infiniment, journaliste et éditorialiste en chef au quotidien Le Soir. Dans quelques instants, le journal de l'International. Et pour l'instant, Dépêche Mode, journée spéciale sur Inter. Reach out, touch faith. Personal Jesus, Dépêche Mode sur Inter.
30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, Michael, direction Téhéran, rencontre avec une jeunesse iranienne éprise de liberté.
Et pas facile, hein, vous en doutez, dans cette république islamique où le contrôle religieux imposé par le régime des Mollahs est omniprésent. Rien ou presque n'échappe au puissant réseau des Basidji, la police ou milice religieuse. 4 millions d'hommes et femmes sur 77 millions d'habitants, 4 millions d'agents visibles ou pas, et qui veillent à la stricte application de la charia, la loi islamique, contrôle quotidien, permanent, et auquel de plus en plus de jeunes tentent d'échapper. Alors ce sont de discrets actes de résistance, comme ces milliers de jeunes iraniennes qui se prennent en photo, sans foulard, dehors, cheveux au vent, clichés aussitôt postés sur les réseaux sociaux, un crime passible de prison. Et c'est ce contournement des interdits qu'a voulu filmer la journaliste Mylène Massé, un mois en immersion dans la capitale iranienne, pour un documentaire en forme de rencontre avec la jeune Sadaf, avec Assam, Kazem et tant d'autres dans ce Téhéran qu'elle décrit comme une fête, la ville où les jeunes font tout pour ne pas étouffer sous les interdits. Et cela commence justement par faire la fête.
C'est une révolution de salon. En 2009, on se souvient que les jeunes ont essayé de se soulever contre le régime. Ça a été réprimé dans le sang. Donc aujourd'hui, les jeunes se sont dit, on va essayer de faire notre propre petite révolution, une révolution des idées. Et donc, ça va passer par faire la fête lors d'une soirée mixte, boire de l'alcool, danser, chanter. Voilà, juste vivre les choses basiques qui, pour nous, sont vraiment acquis. Bah, pour eux, c'est des petites révolutions parce qu'ils défient le pouvoir juste en s'amusant, en fait.
et défier le pouvoir en s'amusant peut coûter cher. Une jeune femme d'à peine 30 ans, on l'appellera Mina, a récemment organisé une petite soirée entre filles et garçons, alcool et musique. Musique un peu trop forte, les voisins ont appelé les Basidji, toute la bande d'amis, immédiatement jetée en prison. Et c'est Mina qui raconte la suite.
Le premier coup de fouet que j'ai reçu, je me suis levée instinctivement et j'ai crié. J'ai pleuré, je lui ai dit « s'il vous plaît, allez-y plus doucement ». La plus âgée m'a dit « assieds-toi, tu aurais dû penser aux conséquences lorsque tu buvais avec des garçons ». Et elle a recommencé à fouetter. Une autre femme était en train de compter les coups de fouet. 1, 2, 3, jusqu'à 80. Cette douleur, je ne peux pas vous la décrire. Il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent comprendre. La douleur physique a disparu, mais l'humiliation et le traumatisme sont restés.
Voilà, interview bouleversante à découvrir en longueur hein, dans ce documentaire. Et si l'on veut malgré tout défier le régime et donc continuer à faire la fête, comment fait-on, Mylène Massé?
On l'a fait en cachette. Quand on dit en cachette, on l'a fait à l'intérieur. C'est derrière les portes, caché, chez soi. Donc on met la musique parfois super fort. Et je posais la question, mais vous n'avez pas peur que les Basidji arrivent? Ils me disaient, non, dans ce quartier-là, c'est plutôt cool. Nos voisins sont plutôt cool. Et de toute façon, on doit prendre ce risque. Sinon, on ne peut pas vivre. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est un proverbe populaire. On dit, à l'époque du chat, on faisait la fête dehors et on priait chez soi. Aujourd'hui, on prie dehors et on fait la fête chez soi.
Et pour faire la fête chez soi, de nombreux Iraniens se débrouillent donc pour trouver de l'alcool. Impossible en théorie d'en acheter sur le sol iranien, mais en réalité, les solutions sont multiples. Tout dépend en fait de votre niveau de vie.
Pour pouvoir commander son alcool, il faut avoir le numéro d'un dealer. Les dealers, ils les appellent les Sahri. Évidemment, il faut connaître quelqu'un qui nous donne le numéro, qui est censé être une personne de confiance. On l'appelle, on lui dit, bah voilà, j'ai besoin de 2 bouteilles de vodka. Et il vient faire la livraison à domicile.
Ça, c'est aussi une jeunesse qui a suffisamment d'argent pour acheter ce oui. genre d'alcool. Mais il y a ceux qui fabriquent leur propre mauvaise bière.
Exactement. Chaque année, il y a des personnes qui meurent de cet alcool vraiment mauvais. On a aussi rencontré des gens qui le faisaient. On l'a goûté, c'est très très fort, faut s'accrocher. Et donc oui, ils font leur propre alcool parce que ça coûte cher de commander cet alcool de contrebande. J'ai rencontré pas mal de gens qui m'expliquaient « Oh, ma tante, elle te fait un super vin !» Donc c'est vraiment artisanal, quoi. Ils le font chez eux, dans la cuisine, ils montent la bassine et ils font leur propre alcool, quoi. Le régime est au courant qu'il y a des gens qui boivent parce qu'on a vu dernièrement qu'il y avait des alcotestes, les policiers ont des alcotestes, donc le régime est conscient de ce problème-là. Sauf que, encore une fois, ils laissent un petit peu passer pendant que les jeunes boivent, pendant que les jeunes font la fête, ils ne s'intéressent pas à la politique.
Et dernière astuce à la mode pour faire la fête, et cette fois en sortant de chez soi, eh bien c'est la bagnole, la voiture. On embarque alors avec Sadaf et ses sœurs, balade dans Téhéran. Même le chien Nicolas est de la partie, chien pourtant interdit par les mollahs, car symbole de la décadence occidentale. Musique à fond, tout le monde chante, même si là encore c'est formellement interdit.
Il y a des policiers, je cache le chien, car s'ils voient le chien, ils vont tous nous arrêter. En plus, comme on a bu, ils vont nous emmener chez les Basidji.
Les Basidji?
Prions que non!
L'ambiance, pour moi française, est surréaliste. L'irréalité de la situation va encore monter d'un cran, quand tout d'un coup, la sœur de Sadaf prononce un drôle de mot comme un signal de départ.
Dordol !
Dordol ou Dordor, vous avez bien entendu. Alors c'est une sorte de code largement partagé par cette jeunesse iranienne. Mais qu'est-ce que c'est que le Dordor ? Réponse.
Alors le Dordor, c'est la drague à l'iranienne. Le concept des voitures de femmes, des voitures d'hommes. Et quand il y a une voiture avec des femmes assez mignonnes, les hommes rapprochent la voiture et on s'envoie le numéro de téléphone à travers la fenêtre. La voiture ne s'arrête pas, donc il faut être assez rapide. C'est un moyen de se rencontrer.
La drague à l'iranienne, évidemment très risquée, mais beaucoup moins qu'un flirt entre personnes du même sexe. La journaliste a ainsi pu rencontrer Assam et Kazem, deux jeunes homosexuels dont il a d'abord fallu gagner la confiance, Mylène Massé.
On a discuté pendant 3 mois avec ce jeune couple pour se mettre en confiance. On s'est raconté nos vies, ils m'envoyaient des photos, je leur envoyais des photos. Il a fallu vraiment faire ce travail de confiance. Et arrivés à Téhéran, ils nous ont dit, on veut témoigner à visage découvert. Donc ils le font vraiment par activisme, quitte à prendre le risque, il faut que les choses changent. Donc on doit témoigner.
Et ils témoignent, de fait, paroles rares et édifiantes.
Mon copain me dit que pour des raisons de sécurité, Nous ne devons pas rester plus d'un quart d'heure sur un même lieu quand on est dehors. Parce que ça peut être dangereux. Mais si quelqu'un nous attrape, on dira qu'on est une bande d'amis.
Que ressentez-vous en tant qu'homosexuel en Iran ?
Je me sens comme un criminel.
Moi j'ai de la chance car ma famille me supporte. Mais pour Kazem et la plupart des gays ici, c'est plus difficile car ils ont des familles traditionnelles qui ne les acceptent pas. Ils les mettent dehors, ils peuvent même les tuer, ils ont le droit. Les pères ont le droit de tuer leurs fils s'ils sont homosexuels. Et ils ne seront pas condamnés pour ça. C'est leur droit.
Voilà, extrait de ce reportage très réussi, hein, intitulé « Cache-cache avec les Mollahs », signé Mylène Massé et Reza Madi. Et c'est à découvrir ce samedi sur Arte à 18h35.
La ultime carte, François Fillon, la
Emmanuel Macron, le 39-year-old
candidat Jean-Luc Mélenchon.
Ils savent que Marine Le Pen va passer à la seconde vuelta.
Je suis fier que Benoît Hamon.
Et comme chaque mardi désormais, place maintenant Michael à la campagne vue d'ailleurs, comment la presse internationale suit et interprète la présidentielle française.
Un nouveau rendez-vous en partenariat avec l'hebdomadaire Courrier International. Et autant vous dire, Nicolas, que tous les grands médias étrangers n'ont rien raté du débat d'hier soir. Un débat aussi extravagant que cette campagne électorale française, estime Die Zeit. L'hebdomadaire allemand, plutôt sévère, hein. Pendant 3h30, la discussion a fait la navette de l'un à l'autre, sans but, aéré comme de si nombreux électeurs français perdus. Et son collègue Die Welt n'est guère plus amène, regrettant surtout que la politique étrangère n'ait été, je cite, abordée en dernière et complètement négligée. Le quotidien conservateur allemand juge que si aucune idée nouvelle n'a émergé dans ce débat, c'est en raison de son objectif premier, tester la présidentiabilité des candidats, le trait qui a précisément manqué à François Hollande durant son quinquennat, nous dit-il. Et nombre de journaux retiennent aussi, et surtout, les pics entre candidats. C'est une question d'organisation, explique le site d'information portugais Observador. Ils étaient 5 dans ce combat, alors qu'un ring de boxe n'a que 4 coins. Il fallait forcément quelqu'un au milieu. Et contrairement à la presse française qui a majoritairement jugé qu'Emmanuel Macron était au centre des attaques, eh bien pour nos confrères, pas du tout, c'est sur Marine Le Pen que les coups se sont concentrés. Ainsi le quotidien espagnol El País, pour qui malgré son expérience, son message populiste calculé, clair et ferme, eh bien la présidente du FN a essuyé la majorité des attaques, particulièrement en matière d'économie. Mais cela pourrait finalement favoriser Marine Le Pen. Selon Enrique González, correspondant en France d'El Mundo, ces attaques vont la renforcer grâce à sa posture anti-système. Car explique-t-il, pour elle, rien n'est un problème. Si elle est mise en examen, c'est parce que le système lui en veut. Si on l'attaque au plan politique, c'est aussi le système qui lui en veut. Et de conclure, je ne pense pas qu'elle atteindra les 50% au second tour, mais elle y sera sûrement. On ne sait pas encore avec qui, dit-il, peut-être face aux candidats Les Républicains, car François Fillon, même si sa performance a été médiocre hier soir, peut encore remonter. Beaucoup plus affirmatif, le magazine américain Bloomberg Business Week, pour qui c'est fait, hein. Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont croisé le fer hier soir, fournissant, nous dit-il, un avant-goût de leur face-à-face au second tour. Enfin, le mot final au Financial Times, qui prend un peu plus de hauteur. En regardant ce débat, on ne pouvait qu'être frappé par la pensée que cette élection pourrait être encore plus importante pour le monde que pour les Français. Fin de citation.
Et la campagne française vue maintenant d'encore plus loin, Michael, vue du Japon.
Le Japon, où rarement un scrutin français n'aura autant été observé. Radios et télé japonaises en parlent quotidiennement. Bonsoir Karine Nishimura-Poupée en direct de Tokyo.
Bonsoir Michael.
Alors cet engouement des Japonais pour notre campagne présidentielle à nous, il faut bien le dire, ce n'est pas normal Karine, mais là, il y a deux personnalités qui retiennent toute l'attention.
Beaucoup de Japonais ignorent jusqu'au nom du président de la République française et celui du Premier ministre. N'en parlons pas, ils ne l'ont peut-être jamais entendu. En revanche, ils connaissent déjà Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est qu'il n'a pas échappé aux médias que ces deux-là sortent du lot et pourraient même les surprendre encore.
Emmanuel Macron
En général, ce n'est pas que les médias japonais s'intéressent particulièrement à la politique française. Le plus souvent, les pages internationales, au demeurant peu nombreuses, sont plutôt consacrées aux États-Unis, l'allié qui inquiète, à la Corée du Nord, l'ennemi qui fait peur, ou à la Chine, le rival à surveiller. Sauf que là, le contexte est bien particulier, comme nous l'explique Leo Ishikawa, producteur d'une émission quotidienne d'information sur la chaîne BS11.
Trump a été élu aux États-Unis et il existe une possibilité qu'un Trump bis accède au pouvoir en France en la personne de Marine Le Pen. C'est peut-être ainsi que le voient les Japonais et c'est la première raison de l'intérêt. Mais c'est aussi parce qu'il y a une forme de fascination pour ce genre de personnes que sont Le Pen et Trump, qui affichent une capacité de meneur, alors que le Japon manque cruellement d'individus présentant une telle force de caractère.
Donc fascination apparemment pour les meneurs, mais les Japonais sont-ils également d'une certaine façon un peu inquiets pour la France et pour l'Europe ?
À vrai dire, ils ne craignent pas tant pour l'Hexagone et le vieux continent que pour eux-mêmes. Et les médias jouent aussi à faire peur.
Il y a une crainte économique, bien sûr. La Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne et la France pourrait aussi opter pour la même chose, un double échec qui serait un véritable choc et aurait des répercussions sur l'économie japonaise.
La thèse déroulée ici, et qui n'est pas totalement absurde, est celle des répercussions économiques au Japon d'un éventuel éclatement européen que pourrait provoquer l'élection de Marine Le Pen. Sans attendre, si d'aventure la présidente du Front National arrivait en tête au premier tour, le yen s'envolerait face à l'euro et ce serait pire encore si elle était élue. La flambée de la monnaie nippone rime pour le Japon avec une chute des marchés boursiers et une peur panique comme celle qui s'était produite dans les entreprises lors de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008. La réaction au Japon est souvent très excessive, au moins dans un premier temps.
Mais sauf qu'en 2002, la présence du Front National au second tour n'avait pas autant été traitée par les médias japonais. Est-ce à dire que vu de Tokyo, Karine, l'enjeu est considéré cette fois comme beaucoup plus important ?
À l'évidence, oui, si l'on en juge ne serait-ce que par le nombre de fois où je suis invité sur des plateaux de TV japonaises pour en parler. Et M. Ishikawa le confirme d'ailleurs.
C'est la première fois que je vois un tel intérêt pour l'élection présidentielle française.
Les Japonais seraient assurément moins effrayés si Emmanuel Macron ou François Fillon emportaient la mise que s'il s'agissait de Marine Le Pen. Mais dans tous les cas, les médias locaux ne manqueront pas de s'interroger sur la population française capable de choisir comme chef de l'État une femme, dans le cas de Marine, un trentenaire, chose impensable dans l'archipel si c'était Macron, ou un politicien mis en examen pour Fillon. Bref, attendons-nous, une fois n'est pas coutume, à ce que la France occupe encore une place de choix dans les journaux nippos en printemps.
Karine Nishimura Poupée, correspondante de France Inter et de l'AFP à Tokyo. Merci Karine, Nicolas, à demain.
À demain, Michael. Hey,
wake up! No!
Un jour dans le monde.
What?
Nicolas Demorand.
Oh my God!
Inter.
Et cela faisait près de 10 ans que les fans attendaient ça, le retour du groupe écossais Jesus and Mary Chain. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Septième album pour ce groupe très important, Mathieu, dans l'histoire du rock qui a bien failli ne jamais voir le jour.
Oui, et la raison est simple, vous connaissez la haine et le mépris célèbre entre les frères Gallagher du groupe Oasis. Eh bien, dites-vous bien que ce n'est rien en comparaison des frères Reed, William et Jim qui ont commencé à se détester beaucoup plus tôt, dès le milieu des années 80, quand ils ont monté le groupe Jesus and Mary Chain, d'où l'hésitation de Jim, le chanteur, on le comprend, à refaire aujourd'hui un disque avec son frère.
Je voulais faire un album, mais je ne voulais pas refaire une dépression non plus. L'enregistrement de l'album Monkey m'avait presque achevé. Le groupe était en train de se désintégrer. À l'époque, on ne pouvait plus se supporter, à tel point qu'on ne pouvait pas être dans la même pièce. On se rendait compte qu'on allait nulle part, et du coup on était sous tout le temps, ce qui n'arrangeait pas les choses. Ça allait tellement mal qu'à la fin, on allait au studio séparément. Le groupe allait en studio, et moi j'y allais après. Il y avait deux versions de Jesus and Mary Chain. Le temps est passé, les gens nous demandaient, il sort quand cet album ? 6 ou 7 ans sont passés, et je me suis dit, oh merde, faisons en sorte de savoir si on peut encore faire un disque. Alors, j'ai vu William, et je lui ai dit, je suis prêt, et toi ? Et finalement, on l'a fait, et ça a très bien fonctionné.
Amputation, extrait du nouveau disque de Jesus and Mary Chain. Mathieu, un disque à l'image du groupe, hors mode et en décalage total.
Oui, les Jesus and Mary Chain qui commencent à l'époque où tout le monde se met au clavier et qui décident de faire exactement l'inverse en montant un groupe de post-punk avec plein de guitares. Les aveux, justement, de Jim Reed.
Les Jesus and Mary Chain ont toujours fait de la musique sans interférence extérieure. Nous, on ne fait pas de chansons à la mode. On n'en a rien à foutre de ce que les gens veulent écouter. On avait une maison de disques, mais on ne les écoutait jamais. On faisait toujours le disque qu'on voulait faire, et c'était unique. Nous avions une idée très claire de ce qu'était Jesus and Mary Chain. C'était notre vision et celle de personne d'autre. Il y avait des compromis, la vie est faite de compromis, mais pour la musique, jamais.
Damage and Joy, c'est le nom du dernier album donc de Jesus and Mary Chain, un groupe d'avant-garde. Mathieu, en pleine période post-punk.
Oui, et Jesus and Mary Chain, on le redit, est un groupe très important car ils font partie de ces groupes anglo-saxons qui vont lancer la vague rock bruitiste, shoegazing, c'est-à-dire regarder ses chaussures pendant qu'on joue. Mais pour le chanteur Jim Reed, ils viennent d'un seul courant, le punk.
Le punk, c'était le début de l'idée de Jesus and Mary Chain. Notre musique est arrivée bien après le punk, mais c'est juste parce qu'on fait les choses lentement. Le punk, pour nous, c'est le début de tout. L'idée de faire un groupe vient de là. Avant le punk, c'était d'autres types qui faisaient de la musique. Des types cool qui vivaient à Londres ou à New York. C'était pas ces types tout pourris qui ne pouvaient habiter que dans le bled d'East Kilburn en Écosse. Et puis, quand le punk a débarqué, on s'est dit... Ah ouais, en fait, rien à foutre. On ressemble pas à des rockstars. On habite ce bled, mais les Ramones, eux aussi, ont l'air bizarres. Et donc, peut-être que nous aussi, on pourrait être comme ça. L'idée d'être dans un groupe, tout d'un coup, n'était plus absurde. Le son des disques était très artisanal. Et avec le punk, les possibilités devenaient immenses.
Ah, ils sont absolument formidables. Merci Mathieu Culeron. Jesus and Mary Chain en concert le 27 avril prochain à Paris, à l'Élysée-Montmartre.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito d'Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On apprenait aujourd'hui, Anthony, la mort d'une figure de la politique nord-irlandaise, Martin McGuinness.
Alors, je pourrais passer cette chronique à détailler la vie d'un homme passé du statut de terroriste recherché par tous les services de renseignement britanniques, arrêté avec 250 bâtons d'explosifs et 5000 chargeurs sur lui, à celui de ministre, voire de vice-premier ministre. Alors, simplifions, Martin McGuinness est d'abord un catholique nord-irlandais né en 1950. En clair, il a eu 20 ans en 1970, au plus fort de ce que les Britanniques ont toujours appelé les troubles et qui s'apparentait à une véritable guerre civile. Dès 72, il a grimpé dans les structures de l'IRA, devenant seconde, une des plus célèbres cellules de ce groupe de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA donc, la brigade de Derry. 1972, l'année du Bloody Sunday, le 30 janvier, 13 civils sont tués par la police lors d'une marche pacifique. Adhéré justement, le pire jour de ma vie, a-t-il expliqué en 2002. Et puis la seconde partie de sa vie, elle, est strictement politique. Passé des rangs de l'IRA à ceux de sa vitrine politique, le Sinn Féin, il a été élu député en Irlande du Nord, avant de le devenir à Westminster, à Londres, et ce de 1997 à 2013. Reste la période la plus passionnante de sa vie politique, celle de faiseur de paix. Toutes les années 90, il s'est épuisé dans des négociations secrètes avec les unionistes protestants et Londres. 1994, premier cessez-le-feu de l'IRA, dont McGuinness est évidemment l'artisan, et 1998, accord de paix du Vendredi Saint.
Un accord, Anthony, qui va servir d'ailleurs de matrice à un autre mouvement indépendantiste armé, j'ai nommé l'ETA basque.
Oui, les deux conflits se sont toujours observés, admirés, influencés. Les indépendantistes radicaux basques ont toujours regardé leurs frères nord-irlandais avec un mélange d'envie et de fascination. Envie pour la place éminente que l'IRA et le Sinn Féin occupaient dans le conflit nord-irlandais. Les catholiques, je le rappelle, représentent un peu moins de la moitié de la population religieuse, alors que les radicaux basques ont toujours été très minoritaires. Et puis fascination pour la reconnaissance internationale aux États-Unis, mais aussi en Irlande, dont disposait l'IRA et toujours le Sinn Féin. Pour ETA, il n'y avait guère mieux que la complaisance française, à façon d'ailleurs pour toute profondeur stratégique. Et lorsque l'IRA a entamé le processus de paix avec les unionistes et Londres, l'ETA, la sœur basque, a commencé à se sentir bien seul. Il faudra d'ailleurs attendre presque 15 ans pour arriver aux mêmes conclusions, c'est-à-dire la fin de la lutte armée.
Mais est-ce que ce n'est pas au fond tout simplement une affaire de génération, Anthony ?
C'est exactement cela, Nicolas. Avec Martin McGuinness, disparaît symboliquement une génération qui s'est battue et qui a beaucoup tué, 3500 victimes pour l'ensemble du conflit nord-irlandais, et qui finalement a serré la main de la reine d'Angleterre. On n'en est pas encore là, côté basque, on parle en ce moment de rendre les armes cachées côté français, de processus politique, mais à la différence de l'Irlande du Nord, il n'a jamais été question, côté gouvernement espagnol, de négocier quoi que ce soit après 800 morts. Il n'en reste pas moins vrai qu'avec la disparition de Martin McGuinness et la semi-retraite des historiques de l'ETA, eh bien c'est une génération qui s'efface, une génération qui n'a pas voulu partir sans faire la paix en Espagne comme en Irlande.
Anthony Bélanger, merci. À 19h20, le téléphone sonne sur les déserts médicaux et sur ce qui, dans cette campagne, semble faire consensus. Pour y remédier, j'ai nommé les maisons de santé. Vos questions, 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter, avec le mot-clé Telson.